RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 RFI avec Frédéric Rivière. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Nous recevrons à 18h30 Aurélie Filippetti, l'ancienne ministre de François Hollande a quitté la politique et elle vient de publier un roman, Les idéaux. Mais en attendant, quels sont les idéaux de Guillaume Larrivé, notre premier invité? Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes député de l'Yonne. Vous êtes secrétaire général adjoint des Républicains. Alors Guillaume Larrivé, vous avez été le questionneur implacable de la commission d'enquête, brève commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale, créée en urgence après l'affaire Benalla, l'ex-garde du corps d'Emmanuel Macron. Pour La République En Marche, eh bien vous êtes devenu le procureur de la Macronie. Cet après-midi, on apprenait qu'Alexandre Benalla refusait de se présenter devant la commission d'enquête du Sénat cette fois. Selon son avocat, eh bien, il acceptera de se plier à l'exercice, mais seulement une fois que le volet judiciaire de l'affaire sera clos. Donc comment interprétez-vous ce refus d'obstacle ?
Je pense que c'est tout simplement contraire au droit. Il n'a pas le choix. Il y a une commission d'enquête
il doit s'y présenter.
Qui est formée au Sénat. En vertu du droit, cette commission d'enquête parlementaire que préside Philippe Bas choisit librement de convoquer qui elle veut entendre. Et donc, M. Benalla devra répondre à cette convocation.
Et s'il n'y va pas, qu'est-ce qui se passe?
Bien, je considère que...
Vous allez pas, les sénateurs vont pas aller chercher avec les menottes?
Non, enfin, c'est pas moi, parce que ça se passe au Sénat.
Mais je sais, non, mais pas...
Il y a d'ailleurs des précédents, il y a déjà eu des mandats d'amener devant une commission d'enquête. Voilà. Mais surtout, ce que je veux dire, au-delà de ça, c'est une espèce de micro-épisode de rentrée, c'est précisément qu'il faut peut-être ne pas passer trop de temps dans le débat public, y compris parlementaire, sur cette affaire. En ce qui me concerne à l'Assemblée nationale, j'ai tout dit au mois de juillet, on a fait notre job. Il a été malheureusement interrompu très rapidement parce que la majorité macroniste ne voulait pas aller au bout de l'explication. Maintenant, c'est cette commission sénatoriale qui doit faire son travail dans une certaine discrétion. Elle rendra un rapport dans quelques semaines ou dans quelques mois. On en parlera à ce moment-là. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on feuilletonne collectivement cette affaire, même si c'était une affaire signifiante. Elle voulait dire quelque chose. Elle nous a éclairé, au fond, sur les dysfonctionnements du système Macron.
On a pu se poser au départ la question de l'opportunité qu'il y ait deux commissions d'enquête, une de l'Assemblée, une du Sénat. Finalement, on se dit aujourd'hui que peut-être, en effet, c'était bienvenu puisque la vôtre est morte de sa belle mort. Mais tout de même, pourquoi au départ deux commissions d'enquête avec en plus des missions, des durées très différentes? C'est quand même un peu surprenant. On ne pourrait pas imaginer que le Parlement fonctionne ensemble à ce moment-là, Sénat et Assemblée nationale, avec une commission d'enquête qui serait mixte.
On pourrait effectivement envisager, mais ça nécessiterait, sans vouloir être technique, votre proposition, une révision technique du texte constitutionnel. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir de commission d'enquête mixte. Voilà. Bon, il faut que chacun fasse son job. La justice doit faire son travail dans cette affaire. Benalla et d'autres, il y en a plusieurs, sont mis en examen. Il faut que la justice instruise, condamne si elle doit condamner, bref, qu'elle fasse son job. Il y a le travail de responsabilité politique qui doit apparaître avec cette commission d'enquête désormais au Sénat. Voilà, moi ce que je pense, c'est qu'il faut, avec beaucoup de sérénité, que les auditions se tiennent. Et je trouve qu'on aurait intérêt collectivement à se donner rendez-vous dans quelques semaines ou dans quelques mois, lorsque l'ensemble des auditions auront été conduites et que les conclusions de cette commission d'enquête auront été rendues. Je ne voudrais pas qu'on feuilletonne.
On a le sentiment que vous en avez... Oui, vous dites feuilletonner. On a le sentiment que vous en avez marre de cette histoire Benalla.
Non, mais bon, d'abord, à titre personnel, je ne vais pas devenir le spécialiste absolu de Monsieur Benalla, mais surtout au-delà de ça, Rosine Fab, je pense qu'il y a mille autres sujets. On a des sujets budgétaires, des sujets de vie quotidienne des Français, des sujets d'avenir de la nation. Je voudrais pas que ce monsieur Benalla lui-même crée un feuilleton. Il est allé sur TF1, pour ne pas la citer, s'exprimer. Il a donné une interview dans un journal. Tout à fait naturel qu'il aille s'exprimer devant la commission d'enquête du Sénat. Il est tout à fait naturel que les sénateurs fassent leur travail. Mais je pense qu'on aurait intérêt collectivement. Je le vois bien quand je vais sur le terrain. C'est pas non plus le sujet numéro un de préoccupation des Français, même si ça a été un sujet sujet important qui a bien montré que la Macronie, au fond, voulait concentrer dans le secret un certain nombre de petites affaires plus ou moins cachées, en se croyant au-dessus de tout, car c'est ça que ça a révélé au fond. Emmanuel Macron et une petite cour au-dessus de tout, voulant cacher un certain nombre d'affaires pas très...
Pardon.
Non, il y a eu ces propos aussi, puisque vous parlez de la Macronie, ces propos troublants du président de la République disant il y a un responsable, c'est moi, qu'il vienne me chercher.
Bien sûr.
Qui ont laissé les gens perplexes.
Bien sûr.
Qui viennent me chercher, on s'est bien demandé ce que ça voulait dire et de qui pouvait venir le chercher.
C'était tout à fait extravagant. Et comme je l'ai dit d'ailleurs au mois de juillet en répondant au Premier ministre le 31 juillet, ces propos-là d'Emmanuel Macron que vous citez montraient une sorte de faiblesse personnelle d'Emmanuel Macron, une sorte de manque de sang-froid qui est assez préoccupant dès lors qu'il est aujourd'hui. Et pour un peu moins de 4 années encore, à la tête de l'État.
Vous dites ça avec le sourire.
Emmanuel Macron a très vite été baptisé Jupiter après son élection. Maintenant, eh bien, même son propre ministre de l'Intérieur évoque l'ubris en parlant, d'un président qui serait dans une forme de toute puissance. Comment vous regardez, vous théorisez dans le fond l'exercice du pouvoir Emmanuel Macron, beaucoup disent c'est un pouvoir solitaire, mais il me semble avoir entendu ça de Mitterrand, de Sarkozy, peut-être un peu moins d'Hollande.
Moi, je pense qu'il y a un paradoxe, sans vouloir faire de la théorie, mais je pense qu'il y a un paradoxe que j'ai envie d'appeler le paradoxe du fort-faible. En apparence, Emmanuel Macron, très fort. Concentration de tous les pouvoirs, une sorte de quasi-fusion entre le pouvoir exécutif de l'Élysée et l'Assemblée nationale, un pouvoir personnel très fort. Mais en réalité... une faiblesse des résultats, une faiblesse des transformations soi-disant engagées.
Regardez, vous êtes impatient, ça fait un an.
Oui, ça fait un an, mais quand même, regardez la carte européenne et les chiffres. Qui a aujourd'hui la croissance la plus faible en Europe ? Réponse, la France. Qui a le pire déficit public en Europe ? Réponse, la Roumanie. Et nous, on est juste après. On est avant-dernier. C'est quand même pas très glorieux.
Ce que vous faites, Guillaume Larrivé, ça n'est pas une analyse extérieur. Sur le pouvoir et sur la manière dont le président de la République exerce son pouvoir. Là, vous faites un travail d'opposant qui critique le manque de résultats. Le sens de la question de Rosine, si j'ai bien compris, c'était plus une réflexion sur cette façon très personnelle qu'aurait d'exercer le pouvoir Emmanuel Macron.
Oui, je pense que, précisément, l'extrême modestie des résultats contraste avec l'hyper-concentration du pouvoir dans les mains
de façon habile de dire la même chose.
Le jour où il aura, vous êtes en train de dire que le jour où il aura des résultats, il pourra jouer à la figure du roi, en quelque sorte.
En tout cas, non, je pense qu'il n'est absolument pas souhaitable de jouer au néo-César. Emmanuel Macron n'est pas la résurrection de Jules César ou de Jeanne d'Arc. C'est pas le
dans une interview, il disait qu'il faut rétablir la figure du roi.
Je pense que Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a plutôt eu raison. C'est un accès de lucidité, je l'en donne acte, de souligner cette espèce d'hubris, c'est-à-dire de prétention, de vanité, qui s'est emparée de la Macronie, du président de la République, mais aussi de tout son entourage.
Est-ce que c'était une maladie qui dure longtemps.
Très frappant. En tout cas,
en est une.
On est vite rattrapé par le réel. Et le réel, c'est l'opinion publique des Français. Je pense que cette espèce de bulle, espèce de cour élyséenne, elle va éclater, la bulle, au contact des réalités. La majorité, encore silencieuse, mais de moins en moins silencieuse des Français, va ramener le président dans la réalité. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, qu'il vienne me chercher, ben c'est le peuple français qui en ce moment est en train de dire, attendez, il n'y a pas de résultat là.
Ouais.
Et il y a beaucoup aussi de brutalité dans un certain nombre de mesures qui sont proposées aujourd'hui par le gouvernement et par le président.
Alors le pouvoir, il est évidemment aussi construit sur la majorité parlementaire qui est très forte. Et demain, ce sera l'élection du président de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de surprise, on sait que ce sera Richard Ferrand qui va succéder donc à François de Rugy. À quel type de présidence vous attendez ? Est-ce que vous pensez que vous allez peut-être regretter François de Rugy ?
Non, moi je m'attends à une présidence réduite à un rôle de courroie de transmission avec l'Élysée. Je suis assez lucide, j'ai rien contre.
N'est pas l'espoir qu'il y ait un respect particulier, une attention particulière à l'opposition, comme certains présidents de l'Assemblée nationale ont su le faire.
Richard Ferrand, on a été élu ensemble en 2012. On n'a pas vraiment le même âge en état civil, mais on a le même âge de député, si j'ose dire. Bon, 2012, il était député socialiste. D'ailleurs, il avait fait sa campagne, je l'ai regardé récemment sur les réseaux, en mettant sa photo à côté de celle de François Hollande. C'était un député socialiste, plutôt au fond de la classe d'ailleurs. Bon, voilà. Il a retourné sa veste, il est devenu l'un des partisans les plus enthousiastes d'Emmanuel Macron et au fond, aujourd'hui, il est récompensé pour sa totale soumission. Ce que je comprends, c'est un des effets du remaniement, c'est qu'en fait, M. de Rugy a été exfiltré, et l'Assemblée nationale est désormais présidée, évidemment, enfin, le sera demain, par quelqu'un qui est au fond complètement aux ordres de l'Élysée. Et ça, je le regrette pour l'équilibre de nos institutions, parce que je crois que l'Assemblée doit être un vrai pouvoir de l'État. Il y a une majorité, bien sûr, c'est logique, mais je pense que l'Assemblée nationale ne doit pas être une instance subordonnée à l'Élysée. C'est pas bien pour les Français.
Alors, un qui ne va pas être atteint, enfin, en tout cas pour l'instant, par l'hubris, c'est votre patron, Laurent Wauquiez. Si on se penche sur le sondage ce week-end JDD-IFOP, eh bien, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy incarneraient mieux la droite que Laurent Wauquiez, qui est classé en 7e position des personnalités susceptibles de mieux incarner la droite. On a le sentiment que la mayonnaise Wauquiez ne prend pas.
On est en septembre 2018. Ça fait moins d'un an que la nouvelle équipe des Républicains, que la nouvelle génération des Républicains s'est installée à la tête de ce premier parti d'opposition autour de Laurent Wauquiez. Ça fait moins d'un an qu'on
est installé. Vous attendiez aussi moins d'un an des résultats d'Emmanuel Macron sur la croissance, etc.
En l'occurrence, Emmanuel Macron, ça fait bientôt 18 mois.
De votre côté, ce doit s'allonger, alors que chez Emmanuel Macron, il doit se rétrécir.
Non, c'est pas du tout ce que je dis. En l'occurrence, on est un parti de opposition. C'est pas nous qui gérons la politique de la lutte contre le chômage. Mais donc, on est là depuis globalement moins d'un an. Et je le dis vraiment sans langue de bois, je pense qu'on est engagé dans un marathon, Rosine Fèvre. Les Français aujourd'hui, ils sont pas en train de regarder prioritairement l'opposition. Ils sont concentrés pour le coup sur ce que fait le gouvernement. Nous, on a plusieurs mois, plusieurs années devant nous pour retrouver cette capacité à incarner. Et donc, on essaie d'être à l'écoute des Français d'abord. Donc, on va sur le terrain. Par exemple, en ce moment, Laurent Wauquiez est en Nouvelle-Calédonie. Puis les uns et les autres, on se déploie dans le territoire. On essaie d'être à l'écoute. Deuxièmement, on fait un travail sur les idées. Moi, je suis secrétaire général délégué au projet des Républicains. J'organise, par exemple, après-demain, un séminaire interne, sans presse, en interne, avec des députés comme Éric Woerth, des sénateurs comme Albéric de Montgolfier, spécialiste des questions de finances, et on fait un séminaire sur la question des dépenses publiques pour travailler très sérieusement entre nous. On invite des intellectuels aussi au siège des Républicains. J'aurai la semaine prochaine Nicolas Bavrez qui va venir présenter et débattre avec nous de la question de la violence et de la liberté. Le mois suivant, on aura Jean-François Colosimo qui viendra parler de géopolitique. Bref, on essaie de travailler sérieusement sur un certain nombre de propositions.
Mais c'était
propositions.
Pas ça ma question. Ma question, oui, c'était sur le manque de popularité.
mais ce que je veux dire, Fèvre, je ne cherche pas à fuir la question.
Un petit peu quand même.
À l'instant T, le sondage est ce qu'il est. Bon, il y a sans doute une prime à la notoriété d'un certain nombre de personnalités qui ont déjà été président de la République, premier ministre, qui sont plus connus aussi. À l'instant T, ce sondage, il montre qu'il y a encore un long chemin.
C'est pas qu'il n'est pas connu, c'est qu'il n'est pas aimé.
Mais Laurent Wauquiez a vraiment voulu devenir président des Républicains.
Oui.
Il s'est donné les moyens de parvenir. Depuis qu'il l'est, on se demande s'il a maintenant cette volonté, et s'il se donne les moyens de s'imposer comme un vrai leader de l'opposition.
On
peut douter tout de même de ça.
Moi, je suis
on ne le voit pas énormément, on ne l'entend pas
je
énormément.
Je réponds très directement. Moi, je pense que le président des Républicains, il ne doit pas être toutes les demi-heures dans le combat de rue. Et pour le dire plus directement, il ne doit pas faire tous les matins une matinale, il ne doit pas aller sur tous les plateaux, il ne doit pas aller réagir à tout. On attend de lui. Je crois qu'il l'a bien compris, Laurent Wauquiez, on en a parlé d'ailleurs, l'équipe. Il faut qu'il prenne de la hauteur. Il a vocation, le moment venu, à incarner un vrai projet d'alternance et des solutions nouvelles pour les Français. On n'attend pas de lui qu'il soit une espèce de commentateur des moindres faits et gestes. Et je trouve qu'il a raison de prendre de la distance par rapport à ça. Mais il a raison aussi,
de
vraiment,
la mêlée, ça vient
Rivière,
plus tard. On a atteint le pouvoir, mais c'est un peu trop tôt, non?
Non, mais écoutez, ça se discute. Enfin, n'attendez pas de lui qu'il soit dans la mêlée au quotidien. Je pense que c'est pas son job. On parlait tout à l'heure de l'affaire Benalla. Il n'a pas été au cœur.
On va parler de l'Assemblée européenne.
Et au Sénat, un certain nombre de personnes qui étaient en action. C'est très bien, par exemple, qu'ils prennent le temps d'aller en Nouvelle-Calédonie. C'est loin, la Nouvelle-Calédonie, mais c'est la France. C'est bien d'y prendre une semaine pour aller voir les différents acteurs. Pareil, c'est bien d'aller faire des déplacements dans les régions. Ils veulent faire aussi.
Guillaume Larrivé, on va parler des élections européennes qui approchent et l'enjeu est double. Au niveau national, on sent bien que les partis d'opposition, dont le vôtre, veulent faire de ce scrutin un vote sanction contre Emmanuel Macron. Et au plan européen, la question qui taraude, c'est dans le fond, est-ce que le Parlement européen va être peuplé d'anti-européens? Donc je vous propose d'écouter le Premier ministre, c'était ce matin lors du séminaire gouvernemental. On écoute.
Cette année, mes amis, va être une année de bagarre. de bagarre politique et pacifique, mais de bagarre, avec une échéance majeure, pas uniquement pour nous, mais pour l'avenir de plus de 400 millions d'Européens. C'est la première fois que l'élection européenne posera de façon explicite la question de savoir si nous voulons construire ou déconstruire l'Union. Alors bien sûr, certains essaieront de faire de cette question une question de politique nationale. Certains essaieront de nous faire croire qu'il y a un plan B à l'Europe. Ne nous y trompons pas. La seule vraie question à ce stade pour l'Europe, c'est to be or not to be. C'est vraiment la question.
Voilà, Shakespeare a invité. Est-ce que ce que dit en fait le Premier ministre, c'est ce que dit Emmanuel Macron aussi, on oppose progressiste et nationaliste. Est-ce que c'est le bon angle d'attaque?
Non.
Pourquoi?
Non, c'est complètement réducteur. Il n'y a pas d'un côté ceux qui sont beaux, intelligents et pro-européens et macronistes, et de l'autre tous ceux qui seraient en réalité idiots, qui n'auraient rien compris. Non, c'est complètement réducteur. Emmanuel Macron, comme Édouard Philippe, veulent nous enfermer dans cette espèce de piège en nous sommant de choisir entre eux et le chaos. Nous, ce qu'on va montrer, nous qui sommes un parti de gouvernement, nous allons montrer qu'il y a une autre voie, une voie euro-réaliste, qui respecte les nations, mais qui décide de changer le logiciel européen. Juste un exemple concret, Rodine Fèvre. Emmanuel Macron et Édouard Philippe, eux, ils sont pour l'élargissement de l'Union européenne à un certain nombre de pays des Balkans. Ils considèrent qu'il faut encore élargir. Ils sont pour une espèce de fédéralisme sans frontières. Eh bien, nous, qui sommes patriotes et qui sommes européens, nous sommes contre l'élargissement. Ça, c'est un choix. C'est pas être xénophobe, c'est pas être nationaliste que de dire qu'il faut arrêter aujourd'hui l'élargissement de l'Europe. Voilà. Ils vont essayer de nous enfermer dans un choix binaire et notre job, notre mission, ça va être d'expliquer qu'il y a un autre chemin. Ça n'est pas le chemin des eurobéas, ça n'est pas le chemin des europhobes qui veulent tout casser. C'est une ligne à la fois patriote et européenne, celle d'un parti de gouvernement, un parti de droite, qui assume une ligne euro-réaliste.
Guillaume Larrivé, on va évoquer le rapport de l'Institut Montaigne qui est paru dimanche sur la montée de l'islamisme en France. Alors, le rapport dit que ça reste très minoritaire, mais que tout de même la progression est extrêmement importante. Il y a un certain nombre de propositions, parmi lesquelles l'instauration d'une taxe sur le halal, et parmi les pistes évoquées également, le renforcement de l'apprentissage de l'arabe à l'école, afin que les jeunes l'apprennent à l'école plutôt que dans des mosquées qui ne seraient pas forcément modérées. On va écouter Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. Il est plutôt favorable à cette idée, vous nous direz ce que vous en pensez.
Un, il y a le développement de l'apprentissage des langues. Et l'arabe est une langue très importante, comme d'autres grandes langues de civilisation. Je pense au chinois qui est en train de se développer beaucoup. L'arabe, qui est une très grande langue littéraire et qui doit être appris pas seulement par les personnes qui sont d'origine maghrébine ou d'origine de pays de langue arabe.
Alors Guillaume Larrivé, apprendre l'arabe à l'école, ça peut être une réponse à la montée de l'islamisme en France ?
Je crois que l'urgence, c'est d'apprendre la langue française, c'est d'apprendre l'histoire de France, c'est d'apprendre l'appartenance à la communauté nationale, c'est d'apprendre l'appartenance à la civilisation européenne. Je pense que l'urgence aujourd'hui dans la France de 2018, ça n'est pas de multiplier les cours d'arabe à l'école primaire, dans les collèges et dans les lycées. Par ailleurs, le vrai sujet de la lutte contre l'islamisme, contre cet islam politique, c'est la fermeture des mosquées salafistes, c'est l'expulsion des prêcheurs de haine, c'est l'interdiction des financements étrangers venant un certain nombre de puissances qui font de l'entrisme dans les lieux de culte en France. C'est aussi la question extrêmement compliquée au plan technique, mais qu'il faudra bien traiter, de la régulation des réseaux sociaux. C'est toutes ces questions-là. Moi, je suis sidéré, je vous le dis, que la réponse du gouvernement, et même de M. Blanquer, pour lequel j'ai du respect habituellement, la réponse du gouvernement à la montée de l'islamisme, c'est l'enseignement de la langue arabe à l'école. Ça me paraît complètement hors sujet, voire même un véritable contresens assez préoccupant. Parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que la montée de l'islam politique, la montée de la revendication islamiste est une véritable menace pour notre art de vivre, pour notre civilisation. Et il faut des réponses beaucoup plus, réalistes, là aussi. Je pense vraiment que l'apprentissage de la langue arabe n'est pas le sujet.
Merci Guillaume Larrivé, on va rester là pour la première partie de cette émission et on se retrouve dans quelques instants avec notre deuxième invité.
Aurélie Filippetti, voilà, merci beaucoup.
Merci à vous.
À bientôt.
RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour dans Mardi politique sur France 24 et RFI avec Frédéric Rivière. Notre deuxième invité est Aurélie Filippetti. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous avez été députée puis ministre de la Culture sous François Hollande. Aujourd'hui, vous regardez la politique de loin, mais vous la décortiquez à la loupe dans un roman, Les idéaux, chez Fayard. C'est aussi l'histoire d'amour entre deux députés de l'Assemblée nationale. La femme est de gauche, élue d'une région minière, l'autre est un aristocrate de droite. Même si parfois vous brouillez les pistes, on reconnaît votre idylle avec Frédéric de Saint-Sernin, donc cousin germain de Dominique de Villepin. Mais je dirais, c'est pas vraiment le propos. Tout cela forme la trame d'un roman, mais ressemble plutôt à un essai politique. Et si le titre n'avait pas déjà été pris, ça ressemble à des illusions perdues. En ce qui concerne la politique.
Moi, peut-être je préfère les idéaux pour mon livre, en tout cas. Parce que je continue de penser que ces deux personnages, ils sont animés de belles convictions et chacun pour des raisons différentes, mais ils veulent s'engager au service des autres. Et c'est ça qui les porte, c'est ça qui les rapproche aussi. Alors bon, l'aspect autobiographique, c'est pas, je me suis inspirée en [S2] Oui. [S1] Fait d'une histoire que j'ai en fait complètement réécrite et reconstituée. Mais je trouvais que c'était intéressant. Mon propos n'était pas de dire au fond, est-ce que la gauche c'est mieux que la droite? C'était de dire qu'est-ce qui se passe pour que des gens qui ont des convictions au départ, quand ils arrivent au pouvoir, ils se heurtent finalement au mur du cynisme et ils se retrouvent dans l'incapacité de réaliser ce qu'ils veulent.
Alors oui, on se demande si c'est pas l'amour est compatible avec la politique, on se demande si l'idéal est compatible avec la politique. Et vous dites ça. Ben non.
Bah en tout cas, il faut
tant qu'on a le pouvoir en tout cas.
Il faut certaines conditions, il faut beaucoup de résistance et puis il faut une équipe autour de soi et jusqu'au plus haut sommet de l'État qui soit absolument convaincu, persuadé que il ne faut rien céder. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une impasse politique.
Ouais, quand on cède rien, on démissionne.
C'est certain. Oui, mais on le voit avec Nicolas Hulot, on le voit avec d'autres. Enfin, moi, j'ai quitté le gouvernement aussi. Il y a un moment donné où, de toute façon, il ne sert plus à rien de rester parce qu'on est trop en contradiction avec ses propres idées. La question, c'est pourquoi est-ce que des gens qui arrivent, qui deviennent président de la République, au moment où ils ont le plus finalement de pouvoir, puisque en France on a beaucoup de pouvoir quand on est président de la République, pourquoi finalement, eh bien, les uns après les autres, ils finissent par se soumettre?
Pour en revenir d'un mot au titre, vous faites remarquer vous-même que les idéaux, c'est l'anagramme des adieux aussi, les adieux. Donc il y a quelque chose comme un clin d'œil dans ce titre. Vous avez fait, c'est un peu vos adieux à la vie politique aussi, ce livre.
C'est une forme d'adieu, oui, bien sûr, parce que au fond j'ai tourné cette page et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit un roman. C'est vraiment une manière de prendre de la distance et aussi de donner au lecteur l'envie de s'interroger lui-même plus que de lui donner des réponses ou des réponses toutes faites. Ou de lui donner ma vérité, c'est pas ce que j'essaye de faire là.
Alors sur le pouvoir, donc cette ivresse du pouvoir, cet aveuglement du pouvoir dont vous parlez, on comprend bien qu'elle touche en premier lieu le président de la République. Vous dites pourquoi, une fois qu'il est élu, en gros, il perd ses idéaux. Est-ce que on peut imputer ça aux institutions qui, enfin c'est un, on l'a dit des milliers de fois, mais qui enferment et qui isolent le président de la République, qui fait qu'il n'est plus du tout en prise avec la réalité du terrain?
Oui, bien sûr, il y a les institutions. En France, c'est largement le cas. C'est vrai que si on prend d'autres pays, par exemple en Allemagne, il y a beaucoup le pouvoir est beaucoup plus simple finalement dans sa manière de s'exercer. Il n'y a pas les ors de la République, il y a moins de pompe. Voilà, en France, tout ça contribue à donner une image très monarchique en fait de la République. Et je pense que ça fait partie des choses qui rendent les président de la République coupé de la réalité, qui leur donne cette hubris, cette ivresse du pouvoir.
Et on peut retrouver ça, je ne sais pas si vous avez pu y échapper vous-même, mais même au niveau des ministres, vous écrivez par exemple, alors c'est votre personnage, mais enfin encore une fois, on peut supposer que vous parlez un peu de vous, vous dites le jour où elle est nommée ministre, votre héroïne, sa future secrétaire l'appelle, et l'appelle immédiatement Madame la Ministre, elle s'inclinait devant elle comme le feraient ensuite tous ceux qu'elle aurait hiérarchiquement sous sa responsabilité, quand elle entra dans ses futurs bureaux, elle comprit de ceux qui la dévisageaient qu'elle tenait leur destin entre ses mains. elle était face à tous ceux qui travailleraient avec elle, la baguette magique qui pouvait transformer leur vie. Vous avez éprouvé ça, vous, quand vous êtes arrivé au ministère de la Culture, ce sentiment pratiquement de toute puissance face au personnel du ministère?
C'est pas un sentiment de toute puissance, c'est un sentiment de pouvoir qui est bien réel. Hein. Vous avez le pouvoir de nommer et de défaire des carrières des uns et des autres. Donc forcément, les gens qui sont autour de vous, ils vous regardent comme quelqu'un qui a le pouvoir de décider de leur carrière. Pas de leur vie, heureusement, mais de leur carrière professionnelle, en tout cas. Ça, c'est absolument réel. Et ça peut, évidemment, faire tourner la tête. Surtout, ça provoque chez les autres chez beaucoup, pas chez tout le monde, heureusement, mais ça dévoie toutes les relations que vous pouvez avoir avec les gens.
Et vous avez eu ce sentiment vous-même, à un moment, vous avez eu la perception qu'éventuellement, vous pouviez ne pas y échapper?
Bien sûr, moi j'ai eu peur de ça.
Ah, vous en avez peur?
J'en ai eu peur parce que j'avais l'impression que...
C'est un démiurge, un peu.
Finalement, passer de l'autre côté, entre guillemets, c'est-à-dire au fond trahir. Et trahir, c'était ce que je ne voulais pas faire. Et je me demandais à chaque fois, chaque jour presque, si j'étais en train de trahir, et jusqu'où, et comment faire pour ne pas se laisser embarquer là-dedans. Et puis surtout, au ministère de la Culture, vous avez aussi beaucoup de paillettes, de strass, de sorties, de choses extrêmement mondaines et qui peuvent vous, alors là, couper totalement de la réalité du pays. Enfin, moi, j'étais quand même élue. Je pense que c'est une force d'être élue dans ces cas-là et d'être élue d'une région comme la mienne, d'où je venais en plus. Et c'était ça ma corde de rappel.
Ouais. Et la bataille avec les autres ministères, quand est-ce que vous avez été déçu de cette espèce de, on va dire, d'oligarchie, c'est-à-dire que chacun défend son ministère et pour arbitrer, on est dans des situations parfois complexes.
Je pense qu'au fond, l'un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas de véritable... Enfin, en tout cas, il n'y avait pas de véritable ligne globale, de véritable esprit d'équipe. Et que du coup, chacun, effectivement, défendait son précaré. Mais après, plus globalement, le problème en France, c'est quand même l'omnipotence de Bercy. Si vous voulez, les autres ministres pensent qu'ils ont du pouvoir, mais en fait, ils dépendent complètement... du bon vouloir, de Bercy, du budget et des finances, qui décident en fait de votre sort. Et si le président de la République ou le Premier ministre ne défend pas ses ministres, les autres ministres
Donc le président de la République n'a pas tout pouvoir finalement.
Il peut imposer à Bercy des choses, heureusement. Mais il est lui-même souvent pris dans cette logique de Bercy, cette logique technocratique. Et donc
il y a des présidents qui ont lutté avec Bercy.
En tout cas, il faut absolument essayer d'y résister. Sinon, vous êtes embarqué dans une logique purement gestionnaire. C'est ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. On arrive avec une commission qui est obnubilée, qui ne fait plus de politique, en fait. Et c'est ça qui est terrible. C'est quand la technocratie tue la politique et que, du coup, il n'y a plus aucun mouvement, il n'y a plus aucun sens de la responsabilité qu'on a vis-à-vis des gens qui vous ont élus et qui vous ont élus sur un certain programme.
Quels présidents n'ont pas été touchés, d'après vous, dans l'histoire? Alors, peut-être la quatrième, la troisième, par cette toute-puissance du pouvoir et qui a su garder... Vous diriez qui?
Je ne sais pas. Les trois derniers, en tout cas, visiblement, tous les trois cédé totalement à l'ivresse du pouvoir.
Les trois derniers, y compris celui qui est en cours,
Oui,
dans
je
le
pense
mandat
que
court. Lui, Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy.
Je pense que tous les trois sont complètement dans un modèle monarchique. Et moi, ça me dérange beaucoup parce que je pense que ce dont on a besoin, en fait, pour comment dire, réformer la France, c'est davantage de démocratie.
Votre livre est aussi largement une réflexion sur les notions de classe sociale. Et quand je dis classe sociale, je ne dis pas condition sociale au sens des avantages, des héritages, des beaux appartements dans les beaux quartiers, mais de ce que se transmettent un certain nombre de familles en termes d'éducation, de valeurs, de codes sociaux. Et vous dites que il est très difficile, quand on ne les a pas reçus en héritage, de les acquérir, parce qu'il y a quelque chose au fond qui se joue entre le naturel d'un côté et l'artificiel de l'autre. Ce sont des choses, ça, que vous avez éprouvées?
Ah oui, bien sûr.
Parce que vous parlez aussi beaucoup de vos parents, qui sont des figures extrêmement importantes, qui se conçoit très bien. Mais voilà, il y a cette notion de classe sociale qui est très forte. Non.
Mais c'est pas seulement dans le milieu politique, c'est en fait dans.
Oui, mais non, bien entendu.
Dans la société oui. En général, les codes, en fait, les codes sont ceux finalement des classes, on peut dire dominantes, installées. Mm-hmm. Et donc pour des enfants qui viennent de milieux populaires, il faut qu'ils acquièrent en plus. Je veux dire, de réussir leurs études, d'acquérir des connaissances, des compétences, etc. Il faut qu'ils acquièrent tous ces codes pour pouvoir justement être, au fond, comme un petit peu invisibles, en tout cas qu'on ne voit pas d'où ils viennent. Ils doivent cacher ça en permanence. Mmh. Et ce sentiment-là, ce sentiment d'inconfort social, c'est quelque chose qui touche absolument tous les enfants qui font ce parcours-là. Parce que, au fond, le milieu dans lequel ils ont grandi n'est pas celui dans lequel ils évoluent adultes. Et il leur reste ce sentiment, justement, de double appartenance.
D'ailleurs, vous dites que quand vous êtes arrivé au ministère de la Culture, enfin, l'héroïne, parce que je sais que ça peut être pénible au bout d'un moment qu'on dise vous systématiquement, mais...
Oui, parce que c'est vraiment un roman,
j'entends
ça,
bien.
J'y tiens
alors,
beaucoup, parce que c'est vraiment...
Voilà.
Il y a un
c'est
travail
pour ça que je fais ce rappel.
Aussi,
mais que cette héroïne, à ce moment-là, éprouve un sentiment, bref, mais un sentiment d'imposture. Je ne devrais pas être là.
De culpabilité.
Bien sûr, de culpabilité et de... Elle se demande en tout cas si elle est vraiment à sa place.
Vous n'avez pas trahi votre classe.
Oui, puis il y a un sentiment aussi, une forme de complexe aussi, un complexe social, un complexe d'infériorité. Enfin, vous voyez, c'est quand même, voilà, elle se demande si elle est bien à sa place.
Même quand on a fait Normal Sup.
Oui, bien sûr. Non, mais je pense que ça, c'est vraiment très, très. Si j'avais fait Normal Sup en venant d'un milieu très bourgeois, je pense que j'aurais peut-être pas ressenti ça.
Le sentiment d'imposture, c'est la marque des gens qui doutent, et les gens qui doutent sont des gens intelligents.
Ah bon, mais il parle de lui.
C'est une sentence que je me permets d'émettre maintenant.
En tout cas, je trouve que quand on doute, c'est en tout cas les gens qui doutent sont rassurants. Moi, ils me rassurent. Je pense que les gens qui pensent détenir la vérité sont les plus inquiétants.
Inquiétants, ouais. Vous parlez beaucoup du monde de l'argent, de ses pressions. Mitterrand, on se souvient de sa phrase l'argent qui corrompt, l'argent qui achète, l'argent qui corrompt jusqu'à la conscience des hommes. Et lui, ça l'a transformé, l'argent. Hein. On sait qu'il a fricoté avec Pelat, avec Tapie, etc. Donc il y a cédé, en fait, aux sirènes de l'argent.
Je ne sais pas s'il y a cédé. En tout cas, je pense qu'à l'époque, c'était encore bien moindre qu'aujourd'hui. Parce qu'avec l'explosion de la richesse des quelques... vraiment 0,01% de la population mondiale qui sont les plus riches, ils vivent aujourd'hui dans des conditions absolument exorbitantes qu'on ne peut même pas imaginer. Et donc l'influence et le pouvoir qu'ils ont sur les responsables politiques, quels qu'ils sont, elle est à proportion de leur fortune démesurée. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour la démocratie. Ça, c'est un risque pour la démocratie. Parce que au fond...
Des exemples.
Ah ben, on en a partout, il y en a en France, il y a une petite poignée de milliardaires qui détiennent du pouvoir à la fois économique, financier, dans les médias, pouvoir industriel, donc avec des marchés à la clé, etc. Et ces gens-là, bon, quand ils dînent à l'Élysée, évidemment que le président les écoute particulièrement. Si vous avez... c'est pareil malheureusement hein, partout dans le monde. Donc le pouvoir politique et d'influence de ceux qui... ont déjà capté depuis en gros 20 ans une grande partie de la richesse mondiale est une menace pour la démocratie, pour nos démocraties. Parce qu'au fond, ils incitent ensuite les gouvernants à faire des politiques qui les servent. Et comme il y a une concurrence entre les États, comme la richesse et les capitaux sont mondialisés, évidemment, chacun se dit, si on fait des régulations, si on fait des politiques trop sociales, les capitaux vont partir, etc. Donc chacun déroule le tapis rouge à cette petite poignée d'ultra-riches que j'appelle les inégaux. Parce qu'au fond, ils sont au-dessus de tout.
Et ben, j'allais y venir, parce que je trouve que cette question de classe sociale, voire de caste sociale, est importante dans votre livre. Et vous avez en effet ces expressions, vous parlez des inégaux et des intouchables. Expliquez-nous de qui il s'agit.
Oui, parce qu'en fait, ces inégaux, ils sont au-dessus des lois. Ils sont au-dessus des lois nationales, ils sont au-dessus des... Voilà, ils ne vivent plus comme les autres. C'est ça qui est incroyable. Leurs enfants ne vont pas dans les mêmes écoles, ils ne vont pas évidemment en vacances aux mêmes endroits, ils n'ont pas les problèmes des gens, enfin de 99% de la population
mondiale. Mais ce n'est pas
de
transgresser une loi, ça.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ils sont dans leur pratique aussi, il y a de l'optimisation fiscale, il y a tout un tas de choses. Mais surtout, ils cherchent et ils ont un pouvoir d'influence extrêmement réel sur la politique.
Mais est-ce qu'ils servent à quelque chose, les riches, tout de même? Est-ce que vous diriez...
Non, mais là, je ne parle pas des riches, simplement des gens qui ont réussi leur vie. Ce n'est pas ça. Je pense vraiment... Je parle vraiment d'une caste
d'ultra-privilégiés. Pour l'écosystème.
Bah, en tout cas, on n'a jamais prouvé que le fait qu'une centaine de personnes détiennent la moitié de la richesse de la population mondiale, hein, parce que c'est ça les chiffres, avait un quelconque impact positif sur l'économie du monde. On va dire ça.
Alors, je disais, il y a donc les inégaux et les intouchables. Et en fait, vous avez ce propos dans votre livre. Vous dites, parmi les professionnels talentueux de la courtisanerie d'État, beaucoup étaient des arrivistes sans expérience, qui toisaient le monde du haut de leur carrière mirador, intouchables, protégés dès leur premier diplôme par la puissance des puissances, la cité interdite de la République, les grands corps. Donc il s'agit des grands corps d'État, l'inspection des finances, etc.
Ça c'est très français pour le coup.
Oui.
Ça c'est très différent, c'est très français.
Ces grands corps, pour vous aujourd'hui, ils sont un obstacle à l'exercice du pouvoir dans le véritable intérêt du peuple?
Ah oui, absolument. C'est-à-dire que en fait, les gens qui sortent de ces grands corps, donc l'inspection des finances, le Conseil d'État ou l'ENA, la Cour des comptes, sont de toute façon protégés tout au long de leur carrière. Par ailleurs, il peut y avoir des gens très bien là-dedans. Je ne critique pas les individus, mais le fonctionnement de ces corps, c'est que au fond, sont des agences de placement et de replacement. Donc, quelle que soit la majorité politique, de toute façon, si parce qu'ils sont plutôt à gauche, on va dire plutôt à droite, mais selon les alternances, au fond, ils sont soit dans les cabinets ministériels, soit dans la haute administration.
Oui, donc de toute manière, ils continuent.
Ou alors ils vont pantoufler dans les grandes entreprises. Oui, mais de toute manière, ils sont au levier de responsabilité et ils sont imprégnés d'une certaine idéologie qui est très forte et qui est une idéologie, on va dire globalement quand même assez libérale, mais surtout. Ils sont coupés de la réalité de ce que vivent les gens du peuple, parce que de toute façon, eux sont protégés. Ils seront protégés tout au long de leur carrière. Ils n'auront jamais, si à un moment donné, ils sont dans un cabinet, que le régime change, ils vont être recasés de toute manière en priorité, bien plus que des hommes ou des femmes politiques. Ce sont des vrais privilèges d'ancien régime.
Oui.
Voilà. Par ailleurs, après, encore une fois, là-dedans, vous avez des gens de grande valeur. Mais, pour avoir discuté avec un certain nombre d'entre eux, auparavant, il y a 50 ans, c'était des gens qui avaient vraiment le sens de l'État chevillé au corps. Donc, en quelque sorte, ils vivaient pour l'intérêt général. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, comme en plus, l'État lui-même n'a plus vraiment bonne presse, et bien, ces gens-là pensent avant tout à leur carrière, voire à se recaser ensuite dans le privé ou à faire des allers-retours pour des raisons financières.
Vous avez quitté donc la vie politique, le Parti Socialiste, un vieux souvenir pour vous.
J'ai été exclu du Parti Socialiste.
Exclu, pas plus mal, si.
Bah écoutez...
J'en sais rien. Vous lui donnez chair de sa peau à ce PS?
Alors ça, je ne sais pas. En ce moment, il est en bien mauvais état, en tout cas.
Comment il peut se régénérer?
Je ne sais pas si c'est le PS qui doit se régénérer, d'ailleurs. Je pense
les idées. Enfin,
faudra qu'une gauche écologiste, et sociale, se naisse. Mais sans doute que ça ne passera pas par le Parti Socialiste. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'à un moment, il faut tourner une page. Et puis, il y a trop de ce qui s'est passé entre 2012 et 2017 a laissé trop de traces dans la mémoire des gens de notre électorat, ce qui était notre électorat, l'électorat de gauche, pour qu'on puisse comme ça réinventer le Parti Socialiste aussi facilement.
Je voudrais une dernière citation pour vous poser une question. Vous prêtez à ce couple à un moment cet échange, c'est une forme de dispute, et l'homme dit à la femme, tu vis avec l'image, l'homme de droite dit à la femme de gauche, tu vis avec l'image d'un peuple mythique. Finalement, je me demande si derrière cet idéal ne se cache pas un fond de paternalisme. Tu le méprises, ce peuple, tu l'infantilises, tu ne l'aimes pas avec ses défauts et ses faiblesses, tu veux le transformer, moi je le prend tel qu'il est. Est-ce qu'il y a un fond de réalité sur la vision du peuple, droite-gauche, dans cet échange?
Ah bah oui, sans doute. Parce que, en fait, quand on est de gauche, on a une vision un peu idéalisée, effectivement, ouais. du peuple, bien sûr.
C'est pas un peu manichéen, la gauche a du cœur et la droite
n'en
a pas.
Mais justement, le débat, c'est ça. Enfin, leur discussion, c'est ça. C'est que lui dit, non mais le manichéisme, c'est bien. Le peuple aussi, il y a du racisme, il y a de la xénophobie, il y a des gens du peuple qui votent.
Mais je vous posais la question à vous, en fait.
Contre les migrants. Non mais oui, bien sûr, il y a une part de manichéisme. Mais moi, je l'assume, et malgré tout, je continue à croire quand même dans l'intelligence du peuple, et dans, en tout cas, l'intelligence de ceux qui doivent le représenter aussi.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Aurélie Philippe.
Merci, et on rappelle le titre de votre livre, Les idéaux, chez Fayard. Merci Frédéric, et merci à Charlotte Urien-Tomaca et à Camille Néron d'avoir préparé cette émission, et à toute l'équipe.